Voilà, bon, les structures qui sont mes structures de tutelle, bon, l'Université de Toulouse, le CNRS et l'INP-ENSAT. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule école d'agro qui ne relève pas du ministère de l'Agriculture. Je vous expliquerai après pourquoi. Bon, les travaux que je vous présenterai ont été faits en association avec Arbres et Paysages d'Autan et avec un industriel qui est la Sodexo. Donc moi, je vous parlerai pour rester dans le cadre de vos problématiques. D'abord, des choses in natura que sont le sol forestier, les acteurs vivants, la dégradation et le recyclage du bois. Et après, je passerai, disons, exprès, j'ai mis in urbi, c'est-à-dire au niveau des sols urbains, les paillis, la biodiversité, en fin de compte, le rôle de l'homme par rapport à ces éléments. Et surtout, je vous parlerai des éléments de traces métalliques, dont Philippe a évoqué certains aspects et dont Jackie parlera aussi certainement. Donc, juste pour faire un récapitulatif au niveau du sol, bon, ici, vous avez un profil de sol, donc vous distinguez ici la litière de l'année qui est tombée. Bon, je me situe dans un sol forestier, forêt caducifoliée. Bon, essentiellement, là, c'est du chêne, d'ailleurs. Donc, on voit ici dessous, vous devinez, bon, difficilement sur la photo, mais vous voyez les feuilles qui ont déjà été relativement attaquées, qui sont la litière de l'année passée. Et puis dessous, vous allez voir ici, on devine donc cette litière relativement décomposée et ici relativement noirâtre vers le dessus, une partie riche en matière organique. Alors, en fin de compte, le sol. C'est un produit d'une roche mère qui va être altérée par le climat. Mais, si vous voulez, c'est la base, c'est l'altération donc de la roche mère par rapport au climat, avec après des multiples facteurs qui vont s'ajouter, la nature de la végétation, l'environnement topographique et surtout un contingent qu'on ignore volontairement, qui sont champignons, bactéries et faune. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sol, c'est un produit, mais ce n'est pas un produit inerte, contrairement à ce qu'on vous a enseigné. Et là, je pense surtout à nos jeunes collègues qui sont en BTS. Il n'y a rien d'inerte dans le sol, c'est un produit vivant. Et après, vous avez un artefact qui intervient sur la construction du sol, qui s'appelle l'homme. Donc, vous, qu'est-ce que vous voyez au niveau des traces de la vie sur le sol? Une des premières choses que vous allez voir, c'est ces turricules de vers de terre. Enfin, je vais un peu trop vite parce que ce que je voulais, c'est que vous me disiez qui était responsable de ces turricules. Donc, c'est bien le vers de terre. Donc là, vous avez une trace de vie vivante que vous voyez. Après, est-ce que vous êtes déjà posé la question, lorsque vous vous baladez en forêt, quand vous voyez des feuilles qui sont relativement dentelées, que quand on présente au niveau de la lumière, on voit à travers exactement comme une dentelle. Donc ici, il y a un agrandissement. Attendez, je retrouve le. Vous voyez, donc ici, ces feuilles complètement vidées, où il reste que les parois cellulaires de la feuille, au niveau des nervures. Et aussi, est-ce que vous êtes déjà interrogé sur, quand vous soulevez des feuilles, cette espèce de truc blanc que vous avez, ce feutrage? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Donc, pour le savoir, donc, si vous voulez, bon, on va passer les termes. Bon, ça, on appelle la squelettisation, mais enfin, on pourra y revenir. Donc, maintenant, vous changez de niveau de perception. Votre œil, il ne sert plus à rien. On est dans un milieu dans lequel je vous demande d'avoir un autre mode de perception, c'est-à-dire essentiellement par rapport à une taupe qui va utiliser. Bon, elle va avoir du mal à utiliser ses yeux parce qu'elle est relativement déficiente de ce côté-là. Donc vous allez vous mettre dans la peau d'une taupe et passer à une perception chimique des choses. Donc qu'est-ce que vous allez voir en premier? Vous allez tomber sur des animaux de petite taille. Donc vous trouvez ici, donc je vous décrirai, donc tous ces animaux de petite taille. Là, on est à l'échelle de inférieure au millimètre. Donc là, vous avez des acariens que vous retrouvez ici sous cette forme. Donc vous en avez d'autres ici, vous en avez d'autres ici. Après, vous allez retrouver d'autres animaux qui, il y a quelques années, étaient encore classés au niveau des insectes, mais qui sont des hexapodes, c'est-à-dire des animaux qui ont 6 paires de pattes, que vous trouvez ici, que sont les collemboles. Bon, là, c'est un acarien, là, c'est un autre acarien, là, c'est un collembole. Ici, vous avez un collembole, et là, vous en avez un autre. Il y a une dia qui a sauté. Donc, la technique que, on a utilisée, elle est relativement simple, c'est-à-dire qu'on prélève un volume de sol. Bon, on a détourné de sa fonction cet appareil qui sert à planter des oignons. Donc, ça nous permet d'avoir des carottes. Ces carottes sont de 250 cm3. Et après, on place ces carottes de terre sur une grille, un entonnoir, dans lequel on laisse la terre se dessécher. Alors, ce qui se passe au niveau de la terre, c'est que cette terre se dessèche de la périphérie vers l'intérieur, et les animaux qui sont enfermés dans cette terre, ils migrent et ils passent la grille. Comme on est des êtres relativement sadiques, on les attend en bas dans un tube d'alcool. Donc, elles tombent dans l'alcool. Donc, la deuxième technique qu'on peut utiliser, c'est la technique de piégeage ou pitfall. Bon, pit, c'est le puits. Fall, c'est tomber. Je tombe dans le puits, donc c'est clair. Donc, on voit ici les petits trous. Et là, donc, on va récolter la faune mobile qui va se promener et qui va aller dans les trous et tomber dans le piège. Donc, la grande différence entre les deux techniques, c'est qu'ici, on va avoir une méthode de piégeage active, c'est-à-dire qu'on ne va avoir affaire qu'aux animaux mobiles, donc ceux qui sont capables de se déplacer. Donc, si vous voulez, les insectes sont essentiellement des animaux à sang froid, donc vous n'allez pas avoir la même efficacité en plein été que vous allez en avoir en hiver. En hiver, ils évitent de se déplacer parce qu'ils consomment trop d'énergie. Donc, après, vous avez l'autre première technique qui est le passif, c'est-à-dire qu'on va extraire les animaux présents dans un volume de sol à un moment donné. Donc là aussi, si vous voulez, c'est deux perceptions du milieu différentes. Les deux ne sont pas cumulables. Vous avez deux types d'informations. Donc ici, vous avez donc ce qu'on voit sous une loupe à un grossissement de 20, c'est-à-dire la quantité d'animaux qu'il y a dans 250 cm3 de sol. Vous pouvez aller jusqu'à 15, 20 000 animaux dans 250 cm3 de sol. Et là, je parle que de la faune comprise entre 2 mm et 0,5 mm. Après, vous avez tous les protozoaires et vous avez toute la faune. Bon, il y a des chercheurs qui se sont amusés. Bon, bien sûr, c'est des chercheurs suisses qui ont regardé ce qu'il y avait dans un mètre carré de prairie au niveau animaux, en fin de compte, c'est supérieur à la population de la Suisse, dans un mètre carré. Bon, c'est des chercheurs suisses, c'est pas... Donc, ce que je voulais, là, juste avant de passer, c'est un petit peu vous montrer le rôle. Donc, là, vous avez le ver de terre qui va intervenir, puis après, vous avez les petits animaux qui vont être les collemboles, puis après les acariens, puis après les micro-organismes. Tout ça, je ne sais pas si vous le visualisez, ça fait une spirale. Et à chaque niveau de cette spirale, il va y avoir, comme on va le voir, l'association avec des champignons. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a une fragmentation et un mélange de la matière organique du sol. Comme première conséquence, on a une modification chimique et physique du sol, qui va entraîner les processus d'humification et de minéralisation, mais en même temps, les animaux qui vont intervenir au niveau de ce sol vont être des générateurs de porosité, et là on rejoint ce que disait Philippe et ce que nous dira Jackie cet après-midi, c'est que cette porosité, elle est relativement importante parce que c'est là que va se stocker l'eau qui va être après disponible pour les racines. Et en même temps, ça c'est un autre rôle très très important, c'est que ces animaux, bon, acariens, collemboles et tout, vont être des vecteurs de dissémination des propagules de champignons. Est-ce que vous avez déjà posé la question, comment faisait le champignon, quand il était dans une couche relativement humifère, comment il va aller coloniser la litière qui tombe de l'année actuelle? Hein, le champignon, il n'a pas de pâte. Il faudrait bien qu'il y ait quelque chose qui l'amène. Donc réfléchissez à ça. Bon, maintenant, on va passer à un autre aspect. On va prendre un exemple dans le temps. Donc, je suis désolé, je n'ai pas pris la dernière tempête, j'ai pris l'avant-dernière, qui était celle de 98. Donc, on se trouve vraisemblablement ici. Je m'excuse, je suis du Sud. Moi, je suis plus habitué à parler du Sud. Donc, j'ai pris les données de Météo France, avec en rouge la puissance du vent. Donc là, on est ici. On est le 24, je pense qu'on était le 26 décembre 98. Donc vous voyez ici la puissance du vent en rouge. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, nous qui étions dans le sud, on était relativement protégés. Mais au bout de deux jours, on a eu nous aussi une autre tempête qui est partie ici de l'île d'Oléron. Et donc ce que je veux vous montrer, c'est, donc je ne sais pas si vous voyez ici, c'est le cubage de bois qui a été mesuré par l'ONF du bois qui est tombé sur le sol. Alors le problème de ce bois, il est multiple. C'est-à-dire qu'on a fait des grands programmes pour récupérer du bois. Mais il faut quand même savoir qu'il y a 90% de ce bois des tempêtes de 98 qui n'a pas été sorti des parcelles forestières. Trop compliqué. Hein, vous ne pouvez pas, si vous voulez, redébiter des arbres qui ont subi des torsions au niveau du vent. Hein, parce que là, bonjour les tronçonneuses et bonjour les dangers qu'il peut y avoir avec les chaînes de tronçonneuses. Un bois fibreux qui a été défibré par le vent, ne vous amusez pas à aller le couper avec une tronçonneuse. C'est excessivement dangereux. Donc, ces arbres, ben, ils sont tombés dans le sol. Alors, je prends un exemple. Comme ça, après, ça nous amènera au paillis. Donc, j'ai pris type tilleul. Pourquoi le tilleul ? C'est un arbre qui n'est pas trop dur comme le chêne, c'est un arbre qui n'est pas trop tendre comme le saule. Donc, de 1 à 3 ans, donc on est après 98, mon arbre est tombé au sol, ok. Donc voilà l'arbre qui est là. Donc, de 1 à 3 ans pour le tilleul, bon, le pas de temps de 1 à 3 ans, il est essentiellement lié à un facteur qui est l'humidité et la température. C'est-à-dire ça peut se passer en un an si j'ai un truc, une période relativement chaude, très riche en humidité, et ça peut prendre 3 ans si je manque d'eau et si je manque de température. C'est pour ça que ça donne une fourchette. Puis après, la fourchette aussi, elle est variable en fonction de l'altitude, si je suis au niveau de la mer ou si je suis à 1800 mètres d'altitude. Donc, qu'est-ce qui se passe la première année, disons de 1 à 3 ans? Vous avez petit à petit, vous le voyez, les écorces à la surface de ce tronc tombé au sol qui vont se décoller. Hein, on s'aperçoit que l'écorce ne tient plus à la partie, disons, dure de l'arbre. Et là, quand on regarde au niveau de ces écorces, quand on soulève, eh ben, on voit ce joli petit, cette jolie petite larve, c'est une larve de coléo, dont vous avez ici l'adulte, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un capricorne. Donc celui qui fait le plus de dégâts dans les bois, c'est pas lui, hein, c'est elle, la larve. Et concomitant à cette présence de... Ici, bon, j'ai pris un capricorne, mais on verra qu'il y a d'autres animaux, il y a l'apparition de champignons micromycètes. Donc bon, je vais un peu squeezer au niveau scientifique les définitions, qui vont se trouver, donc c'est des champignons qu'on qualifie entre guillemets d'inférieurs, mais ils n'ont rien d'inférieur, pas plus que ça d'ailleurs, dans le réseau de phloème. C'est-à-dire, le réseau de phloème, c'est là où va passer la sève élaborée venant de la synthèse chlorophyllienne, donc des produits relativement riches en sucre, et dont les champignons sont relativement friands, enfin plutôt les mycéliums de champignons. Donc là, on est de 1 à 3 ans. Si on continue, on va passer de 3 à 6 ans. Voilà, de 3 à 6 ans, mais on est toujours sur tilleul. Hein. Les 3 à 6 ans, c'est tout relatif. Donc là, on s'aperçoit que ce tronc commence à perdre de plus en plus de son écorce. Quand on commence à regarder au niveau insectes, on va s'apercevoir à la périphérie des animaux que vous connaissez, puisque vous en avez dans vos maisons, qui sont les anobiomes et les vrillettes. Les vrillettes, ça adore les vieux meubles, les meubles récents aussi, hein. Enfin, hormis Ikea, parce que enfin, je vous expliquerai pourquoi Ikea, ils n'aiment pas, mais c'est un peu particulier. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Dans ce tronc d'arbre, on voit de plus en plus de galeries qui sont faites par les anobiomes, qui sont faites par leurs larves, qui sont faites par les larves de coléocérambicides, enfin de capricorne. Et dans ces réseaux de galeries creusés par les animaux, qu'est-ce qui s'insère ? Il s'insère des mycéliums, c'est-à-dire des champignons, c'est-à-dire des cellules de champignons qui vont coloniser les galeries. Parce que tout ça, ça va bien marcher, parce que à ce moment-là, l'arbre est au sol et l'arbre va se gorger d'eau. Donc, si vous voulez, le champignon va pouvoir avoir comme alimentation une alimentation à base de carbone, puisque c'est ce qu'il y avait dans les vaisseaux de glucides, hein, au niveau de la synthèse chlorophyllienne. Donc, il va avoir son carbone, il va avoir de l'humidité et il va avoir des galeries. Donc, il va se développer. Et le champignon, en même temps qu'il se développe, lui, il fonctionne, il va générer un certain nombre d'enzymes. Donc, qu'est-ce qui se passe après, à la suite ? Donc là, je vous rappelle que ce champignon, c'est encore un champignon, entre guillemets, dit inférieur, c'est-à-dire que c'est un qui ne fabrique pas de chapeau. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas celui que vous voyez. Hein, ce n'est pas un cep avec son chapeau, c'est juste un mycélium qui se promène dans le... Donc, si vous voulez... D'un point de vue visuel, c'est pour ça que je vous ai mis l'image de la taupe, vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le percevoir. Mais il y est, chimiquement, on peut le voir. Et avec de l'optique suffisamment fine, on arrive à le voir. Mais vous, avec votre appareil visuel, vous ne le voyez pas. Mais il y est. Donc si on va un peu plus loin, on arrive donc là dans une période de... De 6 à 9 ans, je pense, j'ai du mal à lire de ce côté-là. Donc là, toujours pareil, le taux d'humidité augmente, vous avez le bois qui se charge à nous, donc vous voyez bien le tronc d'arbre qui est gorgé d'eau, et là, qu'est-ce que vous avez au miracle ? Vous commencez à avoir, à la périphérie du tronc, c'est-à-dire très souvent à ce niveau-là, ou même des fois dessus, mais souvent à la périphérie, vous commencez à avoir des chapeaux de champignons. Essentiellement, c'est des agaricales et c'est des basidiaux, mycètes. Mais quand vous voyez ces chapeaux, ce qu'il faut savoir, c'est que ces chapeaux, ce n'est qu'une expression du champignon, que, en fin de compte, la grande partie du champignon, c'est ce qu'il y a dedans, c'est le mycélium. Le mycélium qui va utiliser les trous qu'il y a dans l'arbre pour pouvoir se développer et pour pouvoir fabriquer des enzymes. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va voir au niveau des enzymes, et là, on va arriver donc de 6 à 9 ans, on va avoir le bois qui est gorgé d'eau, et les enzymes de ces champignons, on les a appelés, bon, sous forme, disons, l'activité de ces champignons, c'est ce qu'on appelle la pourriture molle ou la soft rot, et c'est là qu'on va avoir l'attaque de la cellulose et de l'hémicellulose. Donc là, on se trouve en condition naturelle de 6 à 9 ans. Donc, en même temps, il intervient donc les disséminateurs de ces spores de champignons, que sont la faune du sol, qui, elle, arrive par le bas. Donc, si on continue l'histoire, de 9 à 12 ans, on commence à avoir, donc, grâce à ces champignons, ce qu'on appelle la pourriture cubique. Donc, déjà, si vous avez regardé un tronc d'arbre qui est là à peu près depuis 9-10 ans, vous commencez à le regarder, vous vous apercevez que quand vous essayez de le fragmenter, il fait des petits cubes, et souvent des petits cubes relativement rouges. Donc là, on est dans la période d'attaque qui va être la fin d'attaque de la cellulose et dans laquelle il reste la lignine à attaquer et surtout les tanins. Donc c'est souvent les tanins qui donnent cette couleur rouge au bois. Et donc on le voit très bien ici, les fentes de rétractation, et en fin de compte, petit à petit, on perd... la vision de la structure fibreuse du bois. Et donc là, pareil, la petite faune, acarien, collembole, profite de toutes les micro-fissures, et c'est à ce moment-là que vous commencez à voir, à partir de 9 à 12 ans, donc un effondrement du volume du tronc. Vous vous apercevez que le tronc, petit à petit, il devient de plus en plus, de moins en moins haut, et il a tendance à s'écraser au sol. Donc, ce qu'on regarde, c'est qu'après une tempête, la quasi-totalité de l'arbre, donc entre 9 et 12 ans, a entièrement été digéré. Et il a été digéré essentiellement par l'association faune, champignons et bactéries. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'en fin de compte, dans cette digestion, il a pu générer donc des nouveaux éléments nutritifs directement assimilables pour la nouvelle plantule qui va pouvoir pousser à la place de l'ancien arbre qui a été déraciné par la tempête. Et quand même, je préciserai, et ceci, sans aucune intervention humaine. Donc il suffit simplement du temps et un peu d'eau. Donc là, on va passer au deuxième aspect, qui va être ce qui vous intéresse plus directement, que sont les sols urbains, ce que j'ai appelé tout à l'heure une urbie. Donc les sols urbains, comme un sol naturel, sont souvent stratifiés, mais souvent liés au remodellement de certaines structures, disons la reconstruction de certaines voies, la remise, on va avoir une forte perturbation des couches. Mais quand on regarde de près, on a toujours l'existence de ces couches. Mais ce qu'on peut trouver, c'est par exemple, contrairement à un sol naturel dans lequel on va avoir la couche de matière organique en surface, dans un sol urbain, vous pouvez retrouver la couche de matière organique qui va être enfouie, qui va être recouverte par exemple par une série de gravats ou par une série d'éléments d'origine, de route par exemple qui a été supprimée, donc de parcelles, disons d'éléments relativement bitumeux, des choses comme ça. Mais vous pouvez retrouver des poches de matière organique, ce qui peut jouer d'ailleurs de sacrés tours à certains architectes qui souvent élaborent des bâtiments sur des sols qui ne sont pas aussi stables qu'ils peuvent le penser au départ. Après, vous avez un autre problème lié à ces sols urbains, c'est l'écoulement de l'eau, qui est relativement très perturbé. C'est-à-dire que vous avez plusieurs problèmes. Vous avez des problèmes d'imperméabilisation, type grand parking de supermarché, ça c'est l'idéal, pas de conduite d'eau. Vous n'avez qu'à regarder sur les supermarchés, ils n'en ont rien à faire de... Je m'excuse, je peux être agressif des fois, mais ils n'en ont rien à faire de l'écoulement de l'eau. L'essentiel, c'est que juste devant le magasin, vous avez suffisamment une pente pour que les clients ne se mouillent pas les pieds. Après, le reste, ce n'est pas leur problème. Donc, vous avez une hétérogénéité des circulations d'eau. Un autre aspect, et là, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, et je vais apporter mon petit grain de sel, c'est aussi une genèse, c'est ce que j'appelais la genèse de forçage, des pénétrations racinaires pour les ligneux. Donc, moi, je veux tordre le cou à quelque chose qu'on vous a toujours asséné, qui est les racines se développent en aplomb de la canopée, c'est-à-dire en fonction du feuillage. C'est archi faux. Personne ne pourra vous démontrer que les racines sont à la verticale des feuilles. Et par exemple, pour les gens qui ont déjà travaillé en ville, ils s'aperçoivent très bien que les pénétrations racinaires, pour les ligneux, la première chose des arbres de bord de voirie, ce qu'elles vont prendre, c'est qu'elles vont utiliser les galeries des conduites. Elles ne vont pas se fatiguer. Plutôt que d'aller sur le côté où c'est un peu plus dur pour pénétrer la racine, je préfère prendre là où la pelle mécanique a remué le sol et foncer vers là. Donc après, vous comprendrez comment j'en arrive à la dernière ligne, qui est la contamination élevée par les métaux, hydrocarbures, mais aussi herbicides et fongicides, et l'augmentation du pH. Ça me fera revenir. Donc là, à partir de cette mise au point au niveau des sols urbains, je vous présenterai juste une manip qu'on a fait concernant plus précisément les types de paillis. Donc on s'est intéressé, puisque c'est quand même mon boulot, j'ai une formation de systématicien au niveau des arthropodes du sol. Donc on a pris un dispositif expérimental consistant à la présence d'un frêne, Fraxinus excelsior, et de deux bourdaines, flanquées de deux bourdaines, et ceci faisant une unité expérimentale. Philippe l'a évoqué brièvement, c'est une manip sur laquelle on a testé différents types de paillage. Donc ça, ce sont les unités de base. Donc je vous passerai tout l'aspect statistique et nombre de relevés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé la biodiversité sous plastique, sous feutre, bon, il en a parlé un petit peu, sous dalle de, d'isoplan, bon, je suis désolé, mais le dalle, il a sauté, et sous copeau de bois. Bon, on reviendra, je pense, avec Jackie sur les histoires de copeaux de bois, BRF et tout ça, on en reparlera. Donc, ce qu'on a mesuré, donc de façon relativement ponctuelle, puisqu'on a fait deux périodes d'échantillonnage, une au printemps et une en automne, mais là, je vous parlerai surtout de celle du printemps. On a mesuré comme paramètre l'humidité relative, la température, la porosité. Bon, là, je ne l'évoquerai pas, mais parallèlement, on a fait la croissance du plant, diamètre, hauteur de tige et architecture de la partie aérienne. Par contre, moi, je me suis beaucoup plus intéressé à cette partie qui est la biodiversité des arthropodes en termes d'individus, avec toujours comme volume de référence 250 cm3 de sol. Donc, nombre d'individus, richesse en taxa. Bon, les taxas sont des groupes fonctionnellement définis ou systématiquement définis. Bon, ça, on pourra y revenir si certains veulent y avoir des compléments. Richesse spécifique pour les collemboles, c'est-à-dire que là, je suis arrivé jusqu'à déterminer l'espèce, donc l'entité espèce pour les collemboles avec leur nombre, bon, groupe fonctionnel et agencement des communautés. Donc on a comparé plastique, feutre, dalle, copeaux, et que je n'ai pas figuré en plus un témoin, c'est-à-dire une unité frêne bourdaine, enfin flanquée de deux bourdaines, dans lequel nous n'avons fait aucun traitement, nous avons laissé développer la flore de la parcelle. Donc, alors là, vous n'allez pas voir grand-chose si vous voyez au fond ou pas du tout. Si vous voyez un peu. Donc, par exemple, là, ici, nous avons les plastiques. Donc là, vous allez me dire, me corriger, parce que je ne suis plus très bien, si c'est les dalles, les feutres, ici les copeaux, et là le témoin. Donc là, on regarde au printemps la température. Donc on s'aperçoit que, donc, je parle du printemps, enfin pour moi le printemps, c'est disons début juin, fin du printemps. Donc on s'aperçoit d'une chose, c'est la température qui a été mesurée, sous un certain nombre de réplicas, bon, en règle générale, c'est 30 unités de plastique. Donc, ce qui vous donne, alors ça, pour nos jeunes amis bon, qui sont en BTS, bon, c'est des box plots, c'est-à-dire qu'ici, vous boîte à moustache, bon, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, ici, vous avez la médiane, et là, vous avez le nombre de valeurs dans les 25% relatifs à la médiane, et là, en dessous. Et ici, les valeurs extrêmes. Donc, ce qu'on voit très bien, au niveau de la température, par exemple ici, c'est que d'abord, elle est très élevée par rapport à ici. Donc là, je ne peux pas trop lire, moi, depuis ici, mais bon, je pense que c'est 5, 10, 15, 25, je ne suis pas sûr, là. Donc on voit très bien qu'il y a ici, d'une part, la médiane qui est relativement élevée, mais aussi une distribution des valeurs qui est assez ample. Contre, par exemple, ici, au niveau des copeaux, où, si vous voulez, toutes les valeurs ne sont pas amplifiées. C'est-à-dire qu'on retrouve des valeurs qui se tiennent dans un même domaine. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Donc, en fin de compte, on a peu de variations sous copeaux et une température relativement atténuée, alors qu'on a une forte élévation sous plastique avec des écarts plus grands. Si on regarde en ce qui concerne l'humidité, qui est ici ce deuxième graphe, donc là, pareil, on a le plastique en premier. Donc, une des premières choses qu'on voit, c'est qu'on a une grande amplitude de valeurs. Hein, puisque, si vous voulez, ça représente 30 valeurs multipliées en plus par 10, ça fait donc 300 valeurs. Donc, on s'aperçoit qu'on a une grande amplitude avec ici, donc, une médiane qui se situe à ce niveau. Alors que si on regarde, donc là, dalle, feutre, si on regarde des copeaux, on s'aperçoit qu'on a une humidité légèrement supérieure et surtout une variation d'amplitude relativement plus faible. Donc, en fin de compte, on a une plus grande hétérogénéité sous plastique et une meilleure conservation du taux d'humidité sous copeaux par rapport aux autres alternatives. Et ici, vous avez par exemple le témoin, donc ici pour la température et ici pour l'humidité. Donc si on s'intéresse à l'autre aspect que sont les animaux, donc ici est figuré le nombre de taxa, c'est-à-dire le nombre de groupes fonctionnels au niveau appartenance systématique. Je suis désolé pour la qualité des graphes, mais rien qu'avec l'avion, ils se sont un petit peu altérés. Bon, mais enfin, l'essentiel, c'est de voir ici, là, je suis sous plastique, donc on s'aperçoit qu'on a en nombre de taxa présents, en effectif présent, on s'aperçoit qu'on a des effectifs relativement faibles, et surtout, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que l'amplitude de ces effectifs est relativement faible. Alors que si on se projette au niveau ici du témoin ou des copeaux, on s'aperçoit qu'on a une plus grande amplitude du nombre d'individus, donc on a des plus grandes variations, et on a quand même globalement une tendance à l'augmentation du nombre de taxa. On retrouve la même chose ici. Désolé pour la qualité des graphiques, mais enfin, vous devinerez très bien. Ici, en nombre de taxa, c'est-à-dire en nombre de groupes fonctionnels, relativement faible pour le plastique, moyen pour mes feutres et dalles, et relativement élevé pour copeaux et témoins. Donc après, si on s'intéresse à l'autre aspect qui est beaucoup plus, disons, fiable en termes d'utilisation d'indices de richesse, et ça, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes confrontés à ce problème, là, on parle bien de richesse spécifique. Donc c'est bien, les collemboles ont été inventoriés jusqu'à l'espèce. Donc le terme de richesse spécifique veut dire quelque chose. La biodiversité de ces collemboles, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas une biodiversité dont les médias vous rabattent les oreilles, sur laquelle, souvent, ça ne repose sur rien. Donc ici, par exemple, sous copeaux, on se trouve avec une richesse spécifique de 29, hein, c'est-à-dire que j'ai 29 espèces de collemboles clairement définies sous copeaux, alors que si je me réfère aux témoins, j'en ai 25, donc en fin de compte, j'ai 4 espèces de plus en termes de biodiversité sous copeaux, feutre 22, dalle 18, plastique 17. Donc si vous voulez, il y a une diminution de la biodiversité définie sur la richesse spécifique des collemboles. Alors après, l'autre tableau qui est dessous, sont le nombre d'effectifs. Et là aussi, il faut faire attention à quelque chose. Ce n'est pas parce que ici, sous copeaux, j'ai moins d'individus que je n'en ai sous feutre, que si vous voulez, le copeau est, moins favorable au développement des espèces. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque espèce réagit différemment aux contraintes du milieu. Ce qui se passe là, c'est que sous feutre, j'ai ce qu'on appelle une espèce de collembole quasi-expansive. C'est-à-dire qu'il va avoir trouvé un bon environnement abiotique et qui va se mettre à exploser. Donc par analogie, par exemple, je vais prendre un truc qui va vous scandaliser, c'est quand vous rentrez chez vous en période d'août et que vous arrivez dans votre maison dans laquelle vous avez un plancher et vous vous retrouvez avec une explosion de puces. C'est que la puce, pendant que vous n'étiez pas là, elle s'est portée bien, donc ces populations ont quasiment amplifié. Donc si vous voulez, souvent, dans la nature, c'est ce qu'on va trouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir certaines populations qui vont exploser. Et très souvent, ces populations qui explosent sont des populations, si vous voulez, qu'on pourrait qualifier relatives à la biodiversité ordinaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des espèces patrimoniales, ce ne sont pas des espèces à haut enjeu en termes de biodiversité. C'est des espèces cosmopolites et ubiquistes. Enfin, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Donc, ce que j'ai, c'est une biodiversité maximale sous copeaux. Alors maintenant, je vais les tenir. Donc, là, juste un petit... une petite comparaison, mais on va y revenir aussi. C'est la comparaison en nombre d'effectifs entre les prélèvements, de fin de printemps et les prélèvements de début d'automne. Bon, c'est vrai que l'année où on a fait les manips, qui était en 2006, on a eu un été très sec. Donc on a eu quelques petits problèmes, si vous voulez. Bon, les, Bon, les données sont intéressantes, mais elles sont quand même à prendre avec précaution, parce que c'est vrai qu'on n'a pas bénéficié des meilleures conditions abiotiques. Mais néanmoins, on voit des différences entre les histogrammes qui sont en marron par rapport à ceux en vert. On s'aperçoit par exemple que ici, sur le témoin, on va avoir donc beaucoup d'effectifs au printemps, donc en intégrant, si vous voulez, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à des espèces explosives, hein, aussi c'est important. Et par contre, en automne, on va avoir des effectifs moindres. C'est vrai que quand on regarde l'aspect copeaux, on a une atténuation des effectifs moindre en hiver que ce qu'on observe sur témoin. Donc on a peut-être le maintien, disons, d'un environnement qui est beaucoup plus favorable au maintien de la faune. Bon, ici, simplement, certains éléments de faune. J'appuie pas sur le bon bouton, voilà. Donc là, vous avez un collembole, là, vous avez un myriapode lanivus, et là, vous avez un collembole folsomien. Il y a d'ailleurs une dia qui a sauté, je ne sais pas où vous les passez. Donc là, je vais finir par deux diapositives un petit peu particulières. C'est aussi pour rapprocher. Donc les manips n'ont pas été faites exactement sur les mêmes sites que là où on a fait les paillages, mais si vous voulez, c'est dans la même veine d'études. Bon, là, une partie de ces recherches a été financée par l'ADEME. Donc ce qu'on a cherché, c'était les éléments traces métalliques dans les animaux. Bon, il se trouve que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces problèmes d'éléments de traces métalliques, on venait d'acquérir, enfin pas exactement dans mon labo, mais dans le labo à côté, NICPMS. Bon, je vais vous traduire. C'est un outillage très très lourd qui permet de craquer un organisme vivant en le faisant exploser, c'est-à-dire en le ionisant. C'est une torche à plasma qui va ioniser l'animal et qui va extraire de l'animal les masses atomiques. C'est pour ça que derrière, on a un spectre de masse. Donc sur des individus comme ça, qui sont des collemboles qui font 1 mm, voire moins d'un millimètre en taille, on arrive à récupérer les éléments traces. Donc nous, on s'est intéressé au chrome, cobalt, nickel, cuivre, zinc, cadmium et plomb. Donc après, on a fabriqué ce qu'on appelle un facteur de bioaccumulation, c'est-à-dire ici, vous avez FB entre parenthèses, qui est la concentration en éléments de traces métalliques. Donc, bon, on l'a fait pour le cuivre, le nickel, mais là, c'est la formule générale. Avec ici juste le rapport de la concentration de l'élément de traces métalliques dans l'individu ou dans le groupe d'individus, hein, puisque au départ, on est parti. Au départ, moi, je pensais qu'on n'y arriverait pas au niveau de l'individu. Donc, on est parti avec 20 individus. Puis quand ça a marché vers 20 individus, je suis tombé à 10. Quand ça a marché à 10, je suis tombé à 5. Et quand ça a marché à 5, je suis tombé à 1. Mais au départ, je ne pouvais pas savoir qu'à 1, on aurait une réponse. Et au-dessous, on a mesuré la concentration donc des éléments transmétalliques. Ça, on savait le faire déjà, au niveau des sols. Donc ici, vous avez, alors un petit peu désolé pour ceux qui sont au fond de la salle, mais vous avez ici cette ligne en pointillé qui va être la teneur équivalente dans le sol et dans les animaux. Donc on va s'intéresser aux éléments qui sont au-dessus, qui vont être en fin de compte les éléments qui vont être bioaccumulés, c'est-à-dire supérieurs aux teneurs dans le sol, qui vont être bioaccumulés dans les individus. Donc on s'aperçoit qu'il sort comme élément le cadmium, ici le cuivre, ça je vous expliquerai pourquoi le cuivre, c'est un petit peu volontaire de ma part, le nickel et le zinc. Bon, le cuivre, c'est simplement parce que j'ai fait ajouter volontairement dans la série de relevés, des relevés sous vigne et sous verger, au niveau des sols. Ça, c'était moi, parce que j'avais besoin d'avoir un marqueur sûr qui répondait. Je savais qu'il y avait du cuivre, du sulfate de cuivre pendant 25 ans dans ces parcelles, donc normalement ça devait cracher. Et c'est vrai que ça a craché. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau des éléments, bon, cuivre, zinc, nickel, voire chrome sont biogènes, mais ils sont nécessaires au cycle biologique. Alors ils sont nécessaires, et ça c'est un problème de concentration. ils sont nécessaires en tant qu'oligo-éléments. Un oligo-élément, c'est quelque chose avec une concentration faible. Et c'est vrai qu'en règle générale, ce n'est pas trop défini. Concentration faible, mais vous n'avez jamais les marges. Bon, le problème, c'est que de la concentration faible à la concentration moyenne, on y passe vite et on ne sait pas pourquoi. Par contre, il y a deux éléments qui, eux, ne sont pas nécessaires à nos cycles de vie. C'est le plomb et le cadmium. Le problème du plomb, c'est que ça va pour mes bêtes. Bon, c'est vrai, je suis attaché à mes bêtes. C'est pas trop embêtant parce qu'ils accumulent pas du tout le plomb. Par contre, celui qui me gêne le plus, c'est celui-là. C'est le cadmium. Le cadmium, c'est en fin de compte, c'est un toxique relativement puissant au niveau de la vie sur Terre. Et le problème, c'est que nos activités, depuis quelque temps, ont généré des quantités de cadmium non nécessaires. Tout à l'heure, Philippe en parlait, c'est vrai qu'on s'est aperçu que quand on faisait des sols et des animaux autour de ronds-points à l'entrée des villes et à la sortie des villes, rien que les ronds-points, on avait des taux de cadmium qui étaient relativement élevés et relativement toxiques. Et une des raisons, c'est vrai qu'il semblerait que ce soit les plaquettes de frein. C'est-à-dire avant, on faisait les plaquettes de frein avec l'amiante. On a viré l'amiante, puisque c'est un toxique, mais on l'a remplacé par du cadmium. Donc simplement à nous de démontrer que le cadmium est toxique, et avec bien sûr, comme pour les dopages des coureurs, avec un certain temps de retard, on aura le changement des revêtements de plaquettes de frein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On arrive toujours un petit peu en retard. Bon, pour la dernière là, on s'est intéressé aux groupes fonctionnels. C'est-à-dire qu'en violet, ici, ce sont les collemboles, comme ici le Folsomia candida, détritivores et fongivores. Ce sont donc des hexapodes qui font à peu près moins d'un millimètre, qui mangent des champignons et qui sont capables de transporter des spores de champignons dans les horizons supérieurs, de distribuer des bactéries à droite et à gauche via leur tube digestif. Après, il y a un deuxième contingent au niveau groupe fonctionnel qui sont ici les acariens oribates, qui eux sont des détritivores, hein, ce sont ces petits animaux là avec des notrus et puis des rhizotricia, qui sont ici en violet un petit peu foncé que vous voyez là. Et puis après, bon, j'ai rajouté au niveau donc de ces dosages un élément transmétallique, un de leurs prédateurs qui est un acarien, un gamazide. Alors là, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir au fond, mais juste je vais le faire avec le... Ici, vous avez une patte, deux pattes, trois pattes, attendez, une, deux, trois, quatre paires de pattes, comme chez tous les acariens. Et ici, je ne sais pas si vous voyez les stylets très pointus de cet animal là, capable de... Ben, c'est vrai, je suis désolé, mais c'est pas terrible. Mais bon, enfin, le résultat est-il que ces animaux-là mangent cela et mangent cela. Donc là, j'ai le chrome. Là, je dois avoir le cobalt, nickel, cuivre, zinc, cadmium et plomb. Donc on s'aperçoit que les histogrammes orange, ben, en fin de compte, ils intègrent bien ce que les autres ont déjà consommé. Donc on a bien une accumulation au niveau des chaînes trophiques. Donc là, si vous voulez, moi, je me suis arrêté au niveau de ces acariens. Hein, mais il faut quand même savoir que ces acariens gamazides sont quand même des proies préférentielles des araignées. Les araignées sont des proies de chauves-souris. Les chauves-souris sont... Et là, je vous laisse remonter toute la chaîne trophique. C'est-à-dire qu'on part au départ avec un collembole qui va avoir peanuts d'éléments transmétalliques et on se retrouve en bout de chaîne trophique avec quand même des trucs qui ne sont pas négligeables. Et là, c'est à vous que je vous demande de réfléchir. Voilà, donc je vous remercie de votre attention pour ce petit survol de la vie sous nos pieds. Et là, simplement, j'ai laissé quelques ouvrages en français qui vous permettent un petit peu de recaler. Bon, je vous remercie.